RCF. L'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais.
On la considère comme la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Il y a 100 ans, le 4 novembre 1922, l'égyptologue britannique Howard Carter découvrait le tombeau de Toutankhamon. Une tombe au contenu quasi intact, dont la beauté et la richesse ne cessent de fasciner les visiteurs du musée du Caire et des expositions itinérantes. Florence Contin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes égyptologue, auteur de nombreux ouvrages sur l'Égypte, l'Égypte antique, notamment Dans l'intimité de Toutankhamon, que vous aviez publié en 2019, et puis tout récemment, L'Égypte ancienne, vérité et légende, aux éditions Perrin, ou encore Comprendre les symboles et les divinités de l'Égypte, que vous venez de publier aux éditions Ozoni. Alors Florence Contin, aidez-nous à mesurer l'importance de cette découverte du tombeau de Toutankhamon. Dans un de vos livres, vous dites le Graal de l'égyptologie, point d'interrogation. Alors, c'est vraiment le Graal de l'égyptologie ?
Alors, concernant les tombes royales, c'est le Graal parce qu'on n'avait découvert aucune tombe intacte jusqu'à ce matin du 4 novembre 1922. Une tombe royale qui avait été visitée par deux fois par des voleurs, mais qui était intacte avec plus de 5500 objets.
Parce que ces voleurs n'avaient pas pu emmener grand-chose et
non.
Même s'étaient fait prendre.
Ils s'étaient fait prendre à deux reprises. Enfin, ils avaient volé 60% des bijoux, mais on a conservé, cette tombe a conservé des documents exceptionnels pour cette époque, qui est une époque très discutée, l'époque amarnienne.
On a découvert 5398 objets sur place. Et là, ça a été un émerveillement, hein, comme a dit Carter quand il a ouvert la tombe.
Oui, c'était le grand jour de sa vie. Aucun autre jour ne pouvait être comparé à celui-là. Une émotion considérable qu'il a partagée avec Lord Carnarvon, son mécène et la fille de celui-ci. Et effectivement, quand il a passé cette bougie à travers le trou qu'il avait pratiqué, il a raconté que c'était, que voyez-vous, dit Carnarvon, des merveilles, partout le ruissellement de l'or.
Alors, il lui a fallu beaucoup de patience à ce Howard Carter pour découvrir cette tombe. On va pas refaire toute l'histoire, mais racontez-nous, il a mis du temps à trouver cette tombe.
Alors, Howard Carter a débarqué en Égypte à l'âge de 17 ans comme dessinateur. Il n'a pas fait d'études d'égyptologie. Il faut savoir qu'avant cette découverte de 1922, il est arrivé en Égypte en 1890 ou quelque chose comme ça. Et il a beaucoup fouillé. Il s'est formé sur le terrain. Il a découvert d'ailleurs des choses, d'autres tombes importantes. Il a travaillé beaucoup. Il avait cette quête du Graal, qui était son Graal, de découvrir cette tombe de Toutankhamon, parce qu'on avait déjà mis au jour des éléments frappés au sceau de ce roi.
Il est autodidacte, ce qui n'était pas forcément très bien vu par les égyptologues de l'époque, mais il était très méthodique.
Oui, autodidacte, donc pas très bien vu. Il ne faisait pas partie de la gentry, de cette classe sociale qui avait fait l'université. Mais c'était un très grand dessinateur. Et il avait un œil très exercé. Il avait aussi vendu et trouvé des antiquités pour de riches collectionneurs. Il avait exercé son œil. Et également, c'était quelqu'un de très rigoureux, de très méticuleux, jusqu'à l'obsession. Et il a poursuivi cette quête alors que tout le monde disait « Vous n'avez plus rien à trouver dans la vallée des rois ». Il a suivi sa bonne étoile.
Alors vous avez cité Lord et Lady Carnarvon, ils ont joué un rôle important puisque c'est eux qui ont financé, mais eux aussi ont été d'une grande, grande patience.
Oui, parce que Carnarvon a financé pendant 15 ans des fouilles. Ils ont découvert d'autres choses, mais mineures, les fouilles de Carter. Et la dernière saison était celle de la dernière chance.
La sixième et dernière saison.
La dernière.
Il a trouvé.
Carnarvon a dit, c'est fini, je ne sponsorise plus, je ne paye plus ces fouilles. Et Carter a dit, encore une saison. Et Toutankhamon, visiblement, l'a entendu.
Alors, Florence Contin, avant de pénétrer dans la tombe avec vous, dites-nous quand même quelques mots sur ce fameux Toutankhamon. Qui était-il et surtout, pourquoi est-ce qu'on a tenté de le faire disparaître ?
Alors, on pense aujourd'hui qu'il était bien le fils d'Amenhotep IV, Akhenaton, le pharaon monothéiste de l'Égypte ancienne, et sans doute de la belle Nefertiti. Et il a donc c'est l'enfant du dernier de ce couple, un peu un couple maudit, jugé hérétique par la suite. Voilà pourquoi, à la mort de toute cette famille, des rois de cette famille, ils ont été bannis, victimes d'une damnation mémorielle, et on a effacé leur nom des listes royales, ce qui l'a aussi protégé, cette tombe.
Parce que Akhenaton voulait imposer le culte d'un seul dieu, le dieu Aton, et donc il s'est mis à dos tous les prêtres de l'époque des autres dieux du polythéisme égyptien.
Oui, c'est peut-être le fruit d'une révélation, on va dire, spirituelle, mais c'est aussi une réforme politico-religieuse. Les prêtres d'Amon avaient pris une importance considérable qui menaçait finalement la fonction théocratique, la fonction pharaonique, et Akhenaton a repoussé à sa manière cette mainmise des prêtres d'Amon. Il a fait fermer les temples et il a laissé à l'abandon un certain nombre donc de sanctuaires, et Toutankhamon a eu beaucoup à faire quand il est arrivé sur le trône à l'âge de 10 ans. Il a eu à restaurer tout ce que les zélateurs d'Aton avaient attaqué et surtout tout ce qu'il y avait à restaurer qui avait été abandonné pendant le règne de son père.
Alors Florence Quentin, vous venez de nous dire que d'une certaine manière, ça a protégé le tombeau de Toutankhamon parce qu'on a voulu essayer de faire disparaître sa mémoire. Vous pensez que c'est vraiment pour ça que dans cette vallée des rois où les archéologues ont trouvé beaucoup de tombes, c'est la seule qui ait conservé un tel trésor?
Alors, il y a plusieurs éléments. Les éléments, on va dire, historiques. On a supprimé son nom des listes royales, donc il a disparu dans les oubliettes de l'histoire. Et également parce que sa tombe était en dessous d'une tombe postérieure, celle de Ramsès VI. Et donc, les gravats, les détritus de cette tombe ont recouvert l'entrée, ont recouvert cette tombe d'un linceul protecteur jusqu'en 1922.
L'entretien de la semaine. RCF.
Alors Florence Quentin, racontez-nous, le 4 novembre 1922, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on a découvert cette tombe? Je crois que vous avez rencontré celui qui l'a découvert.
Alors on dit que c'est une légende urbaine et que en réalité ce n'est pas ce jeune homme, mais moi j'ai recueilli son témoignage. Il était très âgé. C'était le dernier témoin donc de cette découverte.
Alors il était tout jeune garçon. Tout jeune. Le 4 novembre 1922, c'est un petit porteur d'eau.
Exactement. Il arrive pour abreuver les membres de l'équipe et il enfonce sa jarre dans le sol et c'est lui qui aurait mis au jour la première marche de l'escalier qui menait à l'entrée du tombeau. Howard Carter arrive le matin. Un silence inhabituel l'accueil, il sent que quelque chose s'est passé.
Et alors, c'est vrai? C'est la véritable histoire?
Comment savoir? En tout cas, il semble que quand il arrive, de toute façon, quand il arrive le 4 novembre au matin, la première marche a été mise au jour.
Florence Quentin, dans cette tombe de Toutankhamon, il y avait plusieurs chambres. Vous pouvez nous aider à visualiser rapidement ces chambres et nous dire ce qu'on a trouvé dans ces chambres, parce qu'il y en avait quatre.
Alors, lorsque Carter et Carnavon pénètrent dans la première pièce, ils vont appeler ça l'antichambre. Et là, il y a un mélange hétéroclite de chars, de trônes, de coffres, etc. Et puis, ces deux statues gardiennes, dont une que l'on a pu admirer à la Villette en 2019, les gardiennes donc de la chambre funéraire. Il y a aussi une annexe, c'est ainsi qu'on va l'appeler, là aussi avec un bric-à-brac assez bouleversé d'objets usuels ou d'objets usuels. Et ensuite, Carter va pénétrer dans la fameuse chambre funéraire avec quatre chapelles dorées qui elles-mêmes renferment un sarcophage, renfermant lui-même trois cercueils.
Comme des poupées russes, en fait.
Comme des poupées russes.
Quand on dit quatre chapelles, ce sont des chapelles qui sont les unes...
Gigognes, c'est ça.
Les unes sur les autres.
Quatre chapelles gigognes et à l'intérieur un sarcophage, trois cercueils et la momie de Toutankhamon. Et il y a encore une petite salle qui était plutôt la salle, on va dire, liturgique ou religieuse qui contenait notamment le coffre doré qui abritait les viscères, le coffre à canopes.
Alors ce sarcophage, 110 kilos d'or, incroyable. On avait déjà découvert un autre sarcophage comme celui-ci?
Non, alors c'est le dernier des trois cercueils, c'est l'ultime cercueil, il fait 110 kilos d'or. Il est sublime de beauté, aux traits. Alors là aussi, question aux traits de Toutankhamon ou de la reine Pharaon qui l'a précédé, parce qu'aujourd'hui on est en train de réattribuer un certain nombre d'objets du trésor funéraire de Toutankhamon à sans doute sa sœur ou la reine Pharaon qui l'a précédé, et puis des incrustations de pierres précieuses, de verres colorés dans la position osiriaque avec les bras croisés sur la poitrine. C'est un chef-d'œuvre qui annonce un autre chef-d'œuvre, le masque d'or.
Célèbre masque d'or, voilà, de Toutankhamon, qui est la pièce maîtresse du musée du Caire.
Exactement, de la place Tahrir, parce que c'est le visage d'éternité que le roi veut présenter aux dieux dans l'au-delà.
Mais alors, est-ce que c'est le visage de Toutankhamon ou non? Parce que là, c'est encore un mystère que vous élucidez dans votre livre. Est-ce que le masque d'or de Toutankhamon lui était vraiment destiné?
Alors, si on suit l'hypothèse de certains égyptologues, qui me semble assez plausible, on voit qu'à l'arrière, le cartouche de Toutankhamon a été bruni, a été effacé et qu'il remplace un autre cartouche. Mais l'avant est certainement, a été sans doute refait, si l'arrière appartenait à sa sœur, par exemple, à la reine Pharaon qui l'a précédée. Mais l'avant est bien au trait de Toutankhamon, mais encore une fois, au trait idéalisé, comme le buste de Nefertiti. Effectivement, il s'agit de montrer un visage divin et pas forcément très proche de la réalité.
Heureusement qu'on s'arrête au masque d'or parce que la momie est dans un très mauvais état.
Oui, on ne sait pas pourquoi la momie a été si mal embaumée. On a fait couler des résines extrêmement brûlantes qui l'ont carbonisée. C'est un corps extrêmement touchant quand on va à la Vallée des Rois. C'est la seule momie qui est maintenue dans son tombeau dans la Vallée des Rois. C'est un petit roi noir carbonisé.
C'est triste de voir ça. C'est un jeune homme qui est mort vers 18 ans à peu près.
Voilà, sans doute d'une fracture au genou qui s'est infectée. Il avait une faible constitution. Il avait aussi le paludisme. On le sait aujourd'hui par un certain nombre d'analyses. Et cette momie a été très mal momifiée. Elle a été aussi un peu malmenée par l'équipe d'Howard Carter parce qu'on ne savait pas faire. On ne va pas faire le procès de Carter aujourd'hui parce qu'il faut contextualiser. Il y a 100 ans, on ne savait pas faire. Et aujourd'hui, on a des scanners.
Pour terminer, Florence Quentin, la fameuse histoire de la malédiction du tombeau de Toutankhamon. Encore une fois, légende ou réalité ?
Alors, légende, parce que la fameuse devise qui est « la mort étendra ses ailes sur quiconque pénétrera dans ce tombeau » n'a jamais existé. Carter ne l'a pas révélée. En réalité, il s'agit d'une légende qui a été lancée par Conan Doyle, hein, le père de Sherlock Holmes, pour faire un peu le buzz de l'époque, et aussi par les journaux qui ont feuilletonné sur cette histoire de malédiction parce qu'ils ont identifié des morts suspectes. En réalité, Carter est mort à 65 ans et beaucoup des membres de son équipe sont morts entre 70 et 85 ans.
Une histoire passionnante à découvrir de plusieurs manières, bien sûr. Il y a des documentaires là-dessus. Je renvoie à vos ouvrages, L'Égypte ancienne, vérité et légende. On en saura plus, un livre publié aux éditions Perrin. Et puis je renvoie aussi à une bande dessinée aux éditions Les Arènes qui s'intitule L'Odyssée d'Howard Carter, qui est très bonne pour en savoir plus sur Howard Carter. Puis on a souvent du mal à comprendre les symboles et les divinités de l'Égypte ancienne. Et vous venez de publier un livre sur ce thème aux éditions Ozoni. Merci beaucoup, Florence Quentin.
Merci. Thank you.